Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Grémy Barret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Enfin, tous les jours, c'est midi 15h. Aujourd'hui, midi 14h, parce qu'il y aura bien sûr l'intégral tour à partir de 14h. Tout à l'heure, Paul Lassen est autour de moi, vous venez de l'entendre, journaliste RMC.
Salut, je suis
Paul.
Autour de toi, c'est
oui,
Rémi, bonjour.
Toujours
à tous.
Autour de moi. Oui. Où que je sois, tu es autour de moi.
Je suis autour
Thierry
de toi.
Moreau, journaliste média qui est toujours aussi autour de nous.
Voilà, nous sommes tous autour de toi.
Mais c'est formidable. Frédéric Hermel, journaliste RMC. Salut, Fred.
Nous gravitons autour du soleil que tu es.
Oh, c'est magnifique.
N'en fais pas trop.
Et ma petite planète, Anne-Sophie Saint-Père.
Bonjour.
Militante écologiste. Salut, Anne-Sophie.
Salut, Rémi. Salut, tout le monde.
Dans un instant, pour éviter une paralysie du pays et à l'Assemblée, d'abord, LR et PS doivent-ils s'allier à Emmanuel Macron? Vous nous appelez au 32-16. À 12h30, une amende de 30 euros pour les parents qui viennent chercher leurs enfants retard à l'école. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? À 13h, 40% des Français ne partiront pas cet été. Faut-il créer un droit aux vacances? Certains le réclament. Et puis à 13h45, il y aura le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. Et on parlait de foot, on parlait de demi-finale, mais nous on va au-delà, on voit plus loin.
Oui, Paul. Cadeau exceptionnel cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à la finale de l'Euro 2024. Oh là là. C'est dimanche 14 juillet à 21h avec, qui sait, peut-être les Bleus,
mais
qui
oui,
joueront ce soir. Et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Berlin, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC qui seront présentes sur place. Et bien sûr, vos deux places pour la rencontre, je le répète, c'est dimanche soir à 21h. Alors c'est simple, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro au 732-16. Euro au 732-16. Vos places pour la finale de l'Euro se gagnent uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
La coalition du jour. Face à l'absence de majorité à l'Assemblée, l'idée d'une coalition allant du PS au LR en passant par Renaissance fait son chemin. L'objectif, Paul, c'est d'éviter la paralysie du pays. Tout
oui, c'est en tout cas ce qui semble être le vœu de l'ex-majorité présidentielle. François Bayrou le dit depuis le résultat de dimanche soir. Yael Braun-Pivet l'a répété ce matin notamment. Et même du côté des Français, cette alliance semble être la solution privilégiée. D'après un sondage Harris Interactive publié ce matin, les électeurs plébiscitent une alliance transpartisane. Ils sont 61% à considérer indispensable que les différentes formations politiques s'allient afin de constituer une majorité au sein de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir gouverner le pays. Ils sont également 55% à considérer qu'une alliance doit être faite entre les formations politiques qui se sont accordées à faire barrage au RN pour le second tour des législatives. Dans ce sondage, on apprend également que les Français ne seraient pas opposés au principe de la proportionnelle. 64% des sondés souhaiteraient une composition proportionnelle du gouvernement en fonction des sièges obtenus. Mais alors que le PS ne semble pas prêt à quitter le nouveau Front Populaire et qu'un nouveau parti à droite est en création, l'idée de cette coalition semble compliquée à mettre en place rapidement.
Pour éviter une paralysie du pays, LR et PS doivent-ils s'allier à Emmanuel Macron? Vous nous appelez au 32-16. Thierry Moreau.
Bah déjà, en attendant que le brouillard s'éclaircisse un petit peu, la France, elle n'est pas ingouvernée. Hein. On a un pays qui tourne, on a une administration qui fonctionne.
On a un Premier ministre
par intérim. Qui gère les... Pas par intérim, c'est la il n'a pas été renommé, c'est lui
non,
qui continue.
Non, mais par intérim, tu vois ce que je veux dire.
Oui,
temporaire, si tu préfères.
Il est Premier ministre, plein droit et de manière interne. Il y a en fait deux forces qui s'opposent. Il y a le nouveau Front Populaire qui veut accélérer le calendrier, mais qui n'en a pas vraiment les moyens, parce que je rappelle qu'ils n'ont pas une majorité absolue, mais relative, encore plus relative que celle que Gabriel Attal avait avant. Donc ce sont des rodomontades, c'est du bruit, c'est du buzz. Tout ça, ils essaient de faire le forcing, évidemment, mais... En fait, tout ça, c'est des calembres d'aine, parce que au premier texte qu'ils vont présenter à l'Assemblée, ils vont se prendre une motion de censure et ils vont tomber.
Ouais.
Donc de toute façon, tout ça, c'est du vent. La deuxième force, c'est le bloc central, effectivement, dont tu as parlé. Alors moi, je sais pas si c'est LR plus ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on a des députés de bonne volonté qui ont le sens de l'État, qui refusent les extrêmes de tous bords, et qui peuvent tout à fait passer un accord de gouvernement sur deux ou trois grandes lignes force. Alors ça, le problème, c'est que ça se fait pas en 48 heures, ça va prendre du temps. Chez nos amis italiens, chez nos amis allemands, ça prend souvent des semaines et des semaines, donc je pense qu'il faut être patient. En fait, la deadline, c'est quoi? C'est le budget à la rentrée. Il faut que pour la rentrée, on ait un gouvernement stable, on ait une certaine stabilité. D'ailleurs, on l'a vu sur les marchés financiers, rien n'a bougé. On attend le budget. Ce qui est rigolo, c'est que les Français, en fait, ont proposé une chambre qui le reflète assez proportionnel avec un scrutin uninominal à deux tours. Mais en fait, la chambre qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt un reflet proportionnel. C'est le pouvoir désormais au Parlement. Il faut que le Parlement travaille, discute, s'associe et se mette d'accord pour un contrat de gouvernement.
Pour éviter une paralysie du pays.
Ce ne sera pas une coalition de partis.
Pour éviter une paralysie du pays, LR et PS doivent-ils s'allier à Emmanuel Macron ? Vous nous appelez au 32-16. Anne-Sophie Saint-Père.
Alors moi je trouve ça assez fascinant que Renaissance, qui est donc le grand perdant de ces élections, à la fois pour le coup électoral de les avoir provoqués et parce qu'ils ont perdu 78 sièges, et que si les électeurs de gauche ne s'étaient pas massivement mobilisés pour faire barrage au RN, ils en auraient encore moins, se présentent comme pouvant être la force centrale d'un nouveau gouvernement. C'est vraiment...
Pas seul,
mais c'est aussi le déni de ce qu'ont voulu les électeurs. Aujourd'hui, on est quand même dans une politique économique extrêmement problématique, avec un creusement de la dette. On est dans une procédure de redressement au niveau de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas continuer tel qu'on a fait ces 7 dernières années. Donc, on ne peut pas compter sur le parti qui était au pouvoir ces 7 dernières années. Ensuite, ce qui est très important, c'est quel programme va être mis en œuvre. Je vois pas vraiment de point de convergence entre le PS et les Républicains. Je vois pas bien comment on va pouvoir les mettre dans la même coalition. Et puis un autre point d'ailleurs qui est très important sur pourquoi je n'y crois absolument pas, c'est que Renaissance et Emmanuel Macron en particulier n'ont pas de culture de pouvoir, de gestion du pouvoir par la concertation. À la dernière Assemblée nationale, il ne leur manquait que 40 sièges pour avoir la majorité absolue. Ils n'ont pas réussi. Là, il leur manque plus de 120, je crois. Et donc, je ne vois pas du tout comment ils vont y arriver. C'est plutôt une gestion.
Elle est faite au Nouveau Front Populaire aussi. Hein.
Oui, mais sauf que le Nouveau Front Populaire a démontré que, avec des divergences, en quelques jours, ils peuvent mettre un programme commun sur place.
Oui, mais
ils ont beaucoup plus une culture de la politique par concertation.
Oui, mais ils sont seuls.
Mais alors déjà, ils sont pas seuls parce qu'ils sont plusieurs partis.
Non, mais le Nouveau Front Populaire est seul.
Alors justement, moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que je pense.
Tu crois qu'il y a des LR qui pourraient voter des mesures proposées notamment par LFI ?
Probablement pas. Mais par exemple, quand le programme va sortir, il y a plusieurs éléments où ils peuvent trouver et négocier des alliances. Bah par exemple, loi sur la fin de vie. Je pense qu'il y a une proximité entre
loi sur la fin de vie, d'accord.
Voilà. Sur les retraites, alors ça va être très intéressant parce que le Rassemblement National était opposé à la réforme des retraites. Donc s'il y a une loi, on va voir s'ils soutiennent ou pas. Peut-être qu'ils n'arriveront pas.
Vous avez fait un front contre le Rassemblement National.
Et le NFP accepterait les votes du RN.
À un moment, il faut arrêter avec la politique. À un moment, c'est la vie des gens.
Excuse-moi, Anne-Sophie.
Non, tu me laisses finir.
Non, mais simplement sur ce point.
Fred, s'il te plaît, Fred, tu vas avoir la parole.
Je réponds après.
Merci, Fred.
Mais c'est simplement que si à un moment l'idée c'est d'améliorer la vie des Français et si le RN était vraiment dans l'idée d'avoir des mesures sociales et pour le pouvoir d'achat, ils ne pourront pas s'opposer s'il y a des mesures sociales pour le pouvoir d'achat et financées qui sont proposées. Et donc moi, je crois beaucoup plus à une force qui peut trouver des alliances sur les côtés sociaux et sur les côtés économiques.
Anne-Sophie, ils ne le feront pas.
Ce sont des fascistes. Et ben dans ces cas-là,
c'est ce que disait le FNP durant la campagne.
En réalité, je suis pas naïve. Je sais très bien qu'ils ont une politique économique de droite, mais au moins ça clarifiera les choses et ça donnera un signal aux électeurs qui pensent que le RN peut améliorer leurs conditions sociales en montrant qu'ils ne votent pas des mesures sociales.
Alors moi, les bras m'en tombent. Mais ce que tu as dit, toi, il y a déjà des dirigeants de la France Insoumise qui ont dit « Oui, sur la réforme des retraites, on peut la faire tomber avec les votes du RN. » Attendez, ça fait pendant une semaine où vous avez seriné, vous êtes allié avec des gens que vous détestez pour aller contre le choix de plus de 10 millions de Français d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
Avec des désistements LR et Renaissance.
Oui, mais le problème, c'était le racisme, c'était pas la politique économique.
Alors, vous n'êtes pas que les racistes soient à l'Assemblée nationale, mais après, vous voulez bien voter avec eux. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, là.
On respecte le choix des Français. S'ils sont élus, ils sont à l'Assemblée nationale.
Vous respectez pas le choix des Français, puisque vous avez accepté de vous désister et de voter pour des gens que vous détestez, qui s'appellent les macronistes.
Alors, ça, c'est une réalité. C'est pas le vous que tu décris, Fred. C'est les Français qui ont voté.
Oui,
au final, l'Assemblée, elle a été élue par les Français, partis politiques qui sont rejoints face au Rassemblement national.
C'est-à-dire la gauche s'est désistée dans de nombreuses triangulaires en faveur de candidats de Renaissance, donc Ensemble, qui ont fait la réforme des retraites par 49.3, qui ont fait la loi immigration, etc. Donc à un moment, il faut...
Ah oui, ils ont placé la lutte contre le racisme avant toute chose. Je pense que c'est un signal important.
Mais maintenant, tu trouves que les filles devraient voter à l'Assemblée, le vote à l'Assemblée nationale.
Je ne vois pas comment on peut mettre d'accord le PS et les Républicains. En revanche, dans le programme du Front Populaire, sur des aspects sociétaux, ils peuvent trouver des alliances côté Renaissance. Et sur des aspects économiques, si le RN est vraiment social, ils devraient trouver des alliances.
les racistes et les fascistes quand on se considère que les gens sont racistes et fascistes.
Fred, une coalition qui irait du PS au LR en passant par Renaissance.
C'est pas possible. Pour moi, il n'y a qu'une seule coalition possible. Une seule.
Vas-y.
C'est Renaissance et LR. C'est la seule qui sera une majorité extrêmement relative. Et après, ce sera du coup par coup. Mais c'est la seule. Parce que c'est la seule où il peut y avoir une certaine cohérence dans les idées. Parce que franchement.
Bah pour l'instant, elle ne veut pas.
Non, mais oui, mais oui, ok. Non, mais je veux dire, mais là, je te parle des idées.
Oui, oui.
Quelles sont les deux formations qui sont les plus proches idéologiquement? CLR et le macronisme.
Enfin, mais en quoi ça répond au vote des électeurs les ont rejetés massivement à ces élections? Moi, je trouve qu'il y a un déni de démocratie dans ce cas-là.
Le déni de démocratie, c'est d'avoir fait un front contre le Rassemblement national, contre 10 millions de Français. C'est d'avoir fait que le parti qui a eu 10 millions de voix a moins d'élus que le Front Populaire qui en a eu 4 millions.
Il y a 70% des Français qui ne voulaient pas du RN. À un moment, il faut quand même les autres s'entendre.
Il y a plus de 10 millions de voix pour le RN et 7 environ pour le...
Mais parce que le RN avait 150 candidats de plus. Ça n'a aucun sens. Si tu prends le nombre de voix par candidat, ils en ont eu beaucoup moins.
Candidats de plus parce qu'ils avaient reçu beaucoup plus de voix au premier tour et qu'ils avaient pu se maintenir au deuxième tour. C'est une logique.
Ah non, c'est parce qu'il y a eu des désistements. C'est parce que... Mais si, il y avait 150 candidats de moins chez le nouveau Front Populaire, c'est normal qu'il y ait moins de voix.
Idéologiquement, la Macronie ne peut s'allier qu'avec LR. Et il y a des gens très bien du côté des LR. Moi, je pense sincèrement qu'une solution, c'est Gérard Larcher ou Premier ministre.
Ça y est,
pour une raison très simple, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat, ça compte pour faire une politique. Et le Sénat, il est LR. Il a une majorité. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que les lois ne se font pas. Il n'y a pas que les députés qui votent les lois, ce sont aussi les sénateurs. Donc là, il y a peut-être une ouverture pour essayer de sortir la France de ce bourbier, comment dire,
bourbier,
on dit ça, je sais pas où. Enfin bref.
Oui, ça n'existait. Pour éviter une paralysie du pays, LR et PS doivent-ils s'allier à Emmanuel Macron pour éviter ce bourbier actuel à l'Assemblée nationale?
Je vais déposer ça.
Oui, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Vous nous appelez au 32-16. Noé est avec nous. Bonjour Noé.
Bonjour.
On est en Loire-Atlantique.
Bonjour.
C'est ça, Noé?
Ouais, c'est ça.
Bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'Est-à-Midi sur RMC, RMC Story. Une coalition qui irait des LR au PS en passant par Renaissance, est-ce que pour vous, c'est la solution?
Bah, moi, je trouverais ça complètement honteux de la part du PS. Déjà, Olivier Faure a rejeté en bloc ça, même Europe Écologie Les Verts. Le nouveau Front Populaire dont fait partie le PS a été élu sur un programme de rupture. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Et c'est pas quelque chose qu'il faut marchander pour deux ou trois mesures auprès des macronistes. Et surtout encore moins auprès des LR.
Mais comment trouver une majorité?
Et ben,
trouver un gouvernement qui soit encore une fois, qui obtienne le vote de confiance de l'Assemblée?
Bah alors pour moi déjà il y a quelque chose, c'est que si les élections ont montré que déjà les Français rejetaient en bloc le Rassemblement National en plaçant le Front Populaire en tête par rapport à la Macronie. La Macronie pour moi et le groupe Ensemble doit comprendre que ils ont été encore une fois sauvés par le vote de la gauche. On le voit avec les reports de voix qui sont beaucoup plus importants de la gauche vers Ensemble que l'inverse. Et donc pour moi, il faut comprendre qu'ils ont été battus et travailler avec le nouveau populaire pour mettre en place,
d'accord,
pour au moins ne pas aller contre le nouveau populaire.
Alors, imaginons Noé qu'Emmanuel Macron réponde à votre proposition, à cette idée, qu'il appelle un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire à former un gouvernement, que le gouvernement se présente devant l'Assemblée. Il faudrait donc que des députés Renaissance votent la confiance à ce gouvernement.
Ou s'abstiennent.
Mais s'il y a la France insoumise dans ce gouvernement, est-ce que vous pensez que les députés Renaissance vont voter la confiance ou s'abstenir?
Bah, j'ose espérer qu'en toute conscience de cause, ils voteront la confiance, comme la plupart.
Bah, pendant la campagne, c'était ni LFI ni RN.
Bah alors bon, je vais pas revenir là-dessus parce que je pense que c'est une erreur. Et que
non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, s'il y a LFI au sein d'un gouvernement,
c'était pas le cas de tous les députés. C'était pas le cas. Il y a certaines personnalités politiques macronistes qui ont mis en avant ce ni LFI ni RN. Je pense à Bruno Le Maire, par exemple. Il y en a d'autres qui ont dit sans hésiter qu'ils ne mettraient jamais dos à dos LFI et le RN.
Enfin que oui qu'ils approuvaient pas les filles, mais qu'ils rejetaient d'abord le Havre.
Clément Beaune a été très clair sur son positionnement, et je pense qu'à un moment il y a un principe de responsabilité, parce qu'il va falloir que la France se gouverne, il va falloir entendre le fait qu'il y a un rejet de la politique actuelle et voir comment on peut gouverner autrement avec beaucoup plus de concertation. Et c'est effectivement, c'est une rupture par rapport à ce qu'on vient de vivre ces dernières deux années.
N'est pas à l'ordre du jour, puisque Jean-Luc Mélenchon le soir a dit c'est tout le programme, rien que pour le programme, tout le programme.
Sauf que là ils sont en train de discuter, et entre ce qui est dit dans les discours et ce qui se passe. Et moi, en fait, ça me fait beaucoup penser au pari d'Emmanuel Macron, qui ne pensait pas que la gauche pouvait se mettre d'accord. Et là, on part dans cette idée qu'il ne peut pas y avoir de négociation en politique, alors que ça se fait dans beaucoup de pays.
Anne-Sophie, elle se met d'accord au moment des campagnes, mais après, regarde la NUPES, comment elle a explosé en quelques semaines. Vous êtes différents sur tellement de sujets que c'est.
Laissons-leur un peu de temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui
se passe. Sur le nucléaire, les communistes sont pour, les écologistes sont contre. Déjà, ça qui est essentiel quand on parle du pouvoir d'achat.
C'est surtout qui est en cours. Voilà, le programme nucléaire est en cours de.
Il y a une raison très simple pour laquelle le PS ne va pas s'allier avec Macron. Pour une raison très simple. C'est que Olivier Faure veut pouvoir récupérer son siège de député dans un an.
C'est ça.
C'est tout simple. Parce qu'il est fort probable qu'il y ait de nouveau une dissolution dans un an. Et Olivier Faure, ce qu'il veut, c'est rester dans la NUP, dans le Nouveau Front Populaire, pour pouvoir encore avoir son siège de député comme les autres socialistes. Donc c'est impossible qu'il s'allie à Macron.
Voilà. Merci à Noé d'avoir été avec nous. Il nous a appelé depuis la Loire-Atlantique. Et là, on va dans les Landes retrouver Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous faites quoi dans la vie, Pierre ?
Je travaille dans le management marketing.
D'accord. Bon, il y a besoin de management, là, apparemment, à l'Assemblée. dites-nous, Pierre, est-ce que vous y croyez à une coalition LR, PS, en passant par Renaissance ?
Je l'espère, surtout.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on travaillerait avec des partis qui sont un peu, on va dire, historiques, qui, je pense, sont peut-être, même s'il y a des brebis galeuses, plus humbles et plus travailleurs, et que les deux extrêmes qu'on nous aurait pu nous proposer, que ce soit le RN ou le LFI. Moi, j'ai donné ma voix à gauche là dimanche pour faire barrage au RN, mais je ne suis pas un électeur de gauche à base, donc j'espère que j'ai voté aussi pour ça, pour se dire que j'espère que oui.
C'est un candidat de quelle étiquette ?
Celui pour
lequel vous avez voté ?
Front populaire. Pour
oui, mais c'était il avait une étiquette PS, LFI, écologiste.
PS, pardon.
Si PS. Si ça avait été un candidat LFI, est-ce que vous auriez voté pour lui ?
Alors là.
Vous avez vraiment une obsession pour LFI, c'est fascinant.
Bah oui, c'est clivant. Pardon, c'est un parti. Désolé.
Anne-Sophie, tu peux faire. Et vous n'avez qu'un blocage là-dessus. Le programme.
Mais au sein du Parti socialiste, au sein même du Parti socialiste, certains disent que le LFI est trop clivant. Voilà. Au sein même des LFI, certains disent que certains responsables des LFI sont trop clivants.
Oui, mais en fait, pour moi,
on ne peut pas nier que c'est un parti qui est clivant.
Pour moi, c'est moins
sur Mélenchon.
Pour moi, c'est moins important que de se demander est-ce qu'on a un programme qui économiquement est financé.
Ce n'est qu'un sondage. Excuse-moi, un instant Pierre, si vous voulez bien. Le sondage dont a parlé Paul tout à l'heure, Paris Interactive, ce n'est qu'un sondage.
Oui, parce que les sondages n'ont pas été excellents sur cette dernière période.
57% des Français, d'accord, se disent inquiets de la victoire du Nouveau Front Populaire, et parmi eux, c'est une immense majorité, parce qu'il y a présence de la France Insoumise. On peut faire abstraction, mettre des œillères, dire non, il n'y a pas de problème avec LFI.
C'est pas une question de dire, mais est-ce que c'est le point central ? Est-ce qu'aujourd'hui, le point central, c'est quelle politique on va avoir pour la vie des Français ?
C'est LFI qui se met au point central.
Mais non, là on est sur du discours métapolitique de
qui a décrété.
Oui, mais sauf que là, ils sont en train d'en discuter. Et pour moi, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va sortir et quel va être le programme ? Parce que c'est ça qui va changer la vie des Français. Et quant aux instituts de sondage, j'avoue que là, vu ce qu'ils nous avaient fait ces dernières semaines, j'ai un peu envie de le prendre avec des pincettes.
On va mettre sur le même plan un sondage national sur une intention par rapport à une majorité et des sièges, des projets.
Reste que le Nouveau Front Populaire a la majorité, donc aujourd'hui, il va falloir se demander. C'est la majorité relative, mais c'est la majorité. C'est eux qui ont le plus de sièges à un moment.
Pierre, merci.
Dans ces cas-là, vous pouvez dire que Macron n'avait pas la majorité à la dernière assemblée.
Bah oui, il n'avait pas la majorité. C'est bien pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. C'est notamment
il faut s'habituer à une politique de concertation.
Merci Pierre d'avoir été avec nous. Pierre qui nous appelait depuis les Landes, c'était un peu court, mais il y a Bernard Sananès qui nous attend. Bonjour Bernard Sananès.
Bonjour.
Président de l'Institut de sondage ELAB. Bernard Sananès, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité, alors c'est difficile à dire, mais en tout cas un vœu de la part des Français d'une coalition PS, LR, Renaissance?
Alors nous le saurons dans les enquêtes que nous allons publier. J'ai vu que vous faisiez écho à la publication d'un de nos confrères ce matin de Taris Interactive. Il faut savoir que dans l'opinion publique, il y a toujours eu, quelles que soient les circonstances depuis 10, 15 ans, ce rêve de l'unité nationale. Voilà. Mais ce rêve de l'unité nationale, il se confronte aujourd'hui à une société qui est extrêmement polarisée, extrêmement fragmentée. Il y a, quoi que l'on dise, et quel que soit le résultat de dimanche, il y a trois blocs. Alors, ils sont classés dans un ordre qui est celui qu'ont décidé les électeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de députés de gauche que du centre, et plus de députés du centre et de la gauche que du RN. Mais c'est vrai que ces trois blocs représentent aujourd'hui une tripartition de l'espace politique français, et j'allais dire même souvent de l'espace sociétal. Est-ce que, au sein de ces trois blocs, les responsables sont capables de s'entendre? Comment on peut imaginer, j'entendais ce que vous disiez sur Olivier Faure, je vais élargir un peu le propos. Comment on peut imaginer que des responsables politiques qui ont signé un accord Nouveau Front Populaire pour se faire élire ensemble et gouverner ensemble acceptent tout d'un coup de se désolidariser entre eux pour que un de ces partis aille rejoindre ou gouverner avec le camp?
Ça serait vu comme une trahison.
Ça serait vu par une partie des électeurs qui sont allés voter pour le Front Populaire dès le premier tour. Je ne parle pas du cas de votre auditeur qui vient de dire moi j'ai voté Front Populaire au second tour pour faire Front Républicain. Mais c'est vrai que dans la discipline de gauche, il y a quand même cette idée d'unité et que ce serait surprenant. Donc moi je ne crois pas beaucoup à cette hypothèse, mais pour tout vous dire, et des sondeurs parfois ont le droit aussi d'être dans le doute, je ne vois pas aujourd'hui aucune configuration qui puisse tenir durablement la route, à part des essais de gouvernement avec la majorité relative qui seraient petit à petit renversés. Alors avec un vrai test, c'est vrai que si le président de la République a appelé un premier ministre de gauche, considérant que la gauche est arrivée en tête, comme une de nos GG le dit à l'instant.
Anne-Sophie Saint-Père.
C'est Anne-Sophie, pardon, excusez-moi, je vais Anne-Sophie.
Pas de souci.
Le gouvernement de gauche propose comme premier texte l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que le Rassemblement national votera la censure avec la droite et les macronistes sur cet sujet? Je ne le crois pas. Donc vous voyez, on peut avoir des situations de minorité.
Le RN n'a pas intérêt à faciliter la vie du nouveau Front Populaire, s'il est au pouvoir.
Mais il n'a pas intérêt non plus à s'aliéner une partie de son électorat, qui sans doute lui a reproché.
Le RN a des convictions, Anne-Sophie Zimper.
Sans doute lui a reproché.
Non, mais je dis de ta part. Venant de ta part, ça me surprend.
Le RN n'a pas intérêt non plus à s'aliéner une partie de son électorat, qui sans doute entre les deux lui a reproché son changement de pied sur la réforme des retraites.
Exactement.
Merci beaucoup Bernard Salanès d'avoir été avec nous, président de l'Institut de Sondage Elab. On vous a posé la question pour éviter une paralysie du pays. LR et PS doivent-ils s'allier à Emmanuel Macron?
Ça ne convainc pas nos auditeurs qui répondent non pour 66% d'entre eux.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On va parler de ce qui va se mettre en place à partir de septembre à Toulouse. Une amende de 30 euros pour les parents qui viennent récupérer leurs enfants en retard à l'école. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Il y a un petit sourire de la part de Frédéric Herbel et maintenant d'Anne-Sophie Saint-Père. Je pense qu'on va en discuter. Et de Thierry Moreau aussi.
C'est communicatif, c'est
pour ça. Ouais, on s'appelle au 32-16, vous connaissez le principe. Et on débat tous ensemble, là, tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
La suite d'Estelle Midi, comme tous les jours, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT, l'amende du jour. Une amende de 30 euros pour les parents qui viendraient récupérer leurs enfants en retard à l'école. Paul, c'est ce que la ville de Toulouse s'apprête à mettre en place.
Oui, quand ils viendront chercher leurs enfants en retard, soit après 18h30 à la garderie du soir, tu l'as dit, une pénalité financière de 30 euros pour les parents, ce qui équivaut au coût salarial des deux animateurs qui se voient contraints de rester. Alors cette décision, elle fait déjà polémique. François Piquemal, le député LFI de la 4e circonscription de Haute-Garonne, dénonce une stigmatisation des habitants qui ont des emplois peu flexibles et loin de leur domicile et des écoles des enfants. Les parents d'élèves aussi s'insurgent, la FCPE voit rouge de son côté. C'est une mesure inutile, nulle, vexatoire et probablement inefficace aussi. La mairie ne sait pas ce que vivent ces familles. Les parents qui laissent leurs enfants le soir ne le font pas par gaieté de cœur. Ces contraintes concernent souvent les familles les plus précarisées. Le responsable de la FCPE locale craint que cette amende s'abatte surtout sur les familles monoparentales. Mais Toulouse n'est pas la seule commune à avoir pris cette décision. Moreuil, dans la Somme, a instauré des pénalités de 5 euros pour 5 minutes de retard, 10 euros pour une demi-heure et jusqu'à 50 euros au-delà d'une heure, ou encore
à la Ferté-Bernard dans la Sarthe, qui a opté pour une amende de 5 euros par quart d'heure et de retard pour les parents récidivistes.
Une amende de 30 euros pour les parents qui viendraient chercher leurs enfants en retard à l'école. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Anne-Sophie Saint-Père?
Alors non, moi je suis plutôt inquiète de cette mesure. Pour moi, la première question à se poser, c'est pourquoi les parents sont en retard? Parce que moi j'entends 18h30, alors moi mes parents n'arrivaient jamais à venir me chercher à 18h30. Bon, il se trouve qu'ils avaient réussi à organiser un système de garde, mais je pense que pour plein de parents, c'est extrêmement compliqué si on travaille loin, si on a un patron qui est pas très flexible sur l'heure à laquelle on peut partir, s'il y a des réunions qui s'éternisent, ça peut devenir très compliqué. Donc l'idée, c'est d'abord de comprendre pourquoi, et ensuite, si vraiment il y a des parents qui sont en difficulté, plutôt que de faire payer des amendes avec un côté vexatoire et répressif, faut voir si on peut pas avoir d'autres systèmes de garde. Il y a des parents qui pour l'instant n'ont pas les moyens. J'entends la question du paiement des animateurs parce que d'ailleurs pendant les réformes sur les temps scolaires, ça avait été vraiment une difficulté pour certaines communes. En tout cas, il y avait une grosse inégalité sur le financement des animateurs payés scolaires. Mais ça, c'est quelque chose à voir en fonction des besoins des parents d'élèves. Mais pour moi, je pense pas qu'effectivement on laisse son enfant, on vienne le chercher en retard par gaieté de cœur forcément. Par ailleurs, ceux qui vraiment s'en fichent. Y a quand même des chances qu'ils continuent et puis ça crée une inégalité très forte entre des parents pour qui 30 euros c'est rien et des parents pour qui 30 euros c'est vraiment important à la fin du mois. Et donc au final c'est un peu un droit à disposer de l'animateur à titre privé parce qu'en fait on a les moyens et que donc on va se permettre un retard. Et de l'autre côté, si on est famille monoparentale, en plus on n'a pas l'autre parent pour éventuellement rattraper le coup si on a un retard, et si on a un boulot qui nous permet pas de sortir, ça nous met dans la merde concrètement. Donc pour moi c'est pas forcément... On prend le problème par le mauvais bout. Il faut d'abord voir quelles sont les raisons et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'adresser ces questions de retard.
Frédéric?
Moi, je ne suis pas contre ces amendes, mais uniquement pour les gens dont les responsables des écoles estiment qu'il y a vraiment de la mauvaise volonté.
Bon, je pense que ce sera le
cas. C'est-à-dire que, bien entendu, que la maman seule qui élève 3 enfants et qui... Voilà, les gens ne sont pas cons. Enfin, je veux dire, et en général, les écoles sont les premières à connaître la situation de famille des enfants qu'ils accueillent. Donc,
est-ce que c'est à l'école de pallier?
Oui, alors, mais là, après,
le problème.
Mais simplement, je pense que ces amendes, elles doivent être réservées à ceux qui prennent l'école pour une garderie. Voilà, à ceux qui méprisent l'école et qui ne font rien. Donc où les retards ne sont pas justifiés, où ils sont très fréquents. Donc là, à un moment, il faut sévir, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui estiment que c'est le service public. Allez, on en dispose à sa guise, comme si c'était un service privé qu'on payait très cher. Donc je pense que quand les communes sont réduites, on sont réduites à prendre ce genre de décision un peu autoritaire quand même, c'est que vraiment il y a de gros problèmes. Donc pour les gens qui abusent, pourquoi pas.
Thierry Mont.
Je pense qu'il faut se garder toute essentialisation et il faut faire du cas par cas. La mairie de Toulouse, elle a communiqué en expliquant qu'en fait, c'était pour lutter contre certaines familles qui font ça très souvent, sans motif, qui restent injoignables quand on les appelle et qui laissent leurs enfants sur des retards de 1 heure à 1h30. Là, excusez-moi, mais dans ces cas-là, moi, je n'ai aucun problème à ce que ces familles-là soient taxées au portefeuille de 30 euros. En revanche, quand c'est une famille ou une personne dans une situation monoparentale qui a des problèmes financiers ou organisationnels parce qu'elle a 2 boulots, je pense qu'il faut que les services sociaux de la mairie se mettent en rapport avec elle pour voir de quelle manière on peut l'aider, de quelle manière on peut faire en sorte que les enfants se retrouvent pas justement dans cette garderie, cette prolongation de garde, trouver peut-être un moyen alternatif, des parents qui s'entraident. Je pense que voilà, faut surtout mettre.
Quand t'as des enfants, tu t'organises, tu te débrouilles, quoi.
Oui, c'est ce que Anne-Sophie disait tout à l'heure. Ses parents se sont organisés.
Après, c'est pas toujours facile si on t'offre
non, un emploi. Non, non,
dans ces cas-là,
ce n'est pas facile d'avoir des enfants.
Dans ces cas-là, les services sociaux de la ville sont là pour ça, pour aider une famille en difficulté. Et ça, c'est tout à fait possible. Ils sont là pour ça. Et ils font un travail formidable, plus la plupart du temps. En revanche, des familles qui n'en ont rien à battre, qui laissent leurs enfants, qui se disent de toute façon, c'est pas grave, ils vont pas les mettre dehors.
Non, mais oui, c'est ça. On va pas mettre un gamin de 7 ans.
T'as pas le droit.
Mais ces gens-là ne respectent pas le travail des animateurs et donc des gens de l'école.
30 euros par jour, 450 euros par mois, ça va les faire réfléchir.
Ah, ça oui. Damien, ça va avec nous dans un instant au 32-16. Mais avant, Paul, tu voulais nous donner un exemple. Oui, ça a déjà été fait à l'étranger.
Oui, on n'a pas de retour d'expérience en France, mais ça a été fait en Israël au début des années 2000. Résultat, le nombre de retards a augmenté. Ce qu'on explique là-bas, c'est dès lors qu'une amende existe, le contexte devient un contexte marchand. Il y a un prix au fait d'arriver en retard. Pour les parents, il n'y a plus de honte d'arriver en retard. C'est
je peux être en retard puisque je paye. Et dans les écoles où on a enlevé ça, les parents ne revenaient plus à l'heure de toute façon parce qu'ils s'étaient habitués à arriver en retard, que c'était devenu normal.
Intéressant.
Et que payer, au final, leur permettait de prendre leurs aises.
Damien est donc avec nous au 32-16. Bonjour Damien.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis le département de l'Eure, c'est ça?
C'est ça, oui.
À Vernon?
C'est ça.
Très bien. Damien, vous faites quoi dans la vie?
Je suis technicien et j'ai deux enfants qui vont à l'école.
Très bien. Ils ont quels âges?
Ils ont 9 ans et 14 ans.
9 ans et 14 ans, donc collège et primaire. Est-ce que cette idée de payer une amende de 30 euros en cas de dépassement d'horaire, vraiment quand les parents viennent récupérer très tardivement leurs enfants et régulièrement, ça vous choque ou vous trouvez ça plutôt bien?
Je dirais que c'est bien, mais c'est un peu ironique en fait.
Pourquoi?
Vu que moi je suis jamais en retard, ça me gêne pas. Mais si on met une amende pour les parents qui arrivent en retard, moi je demande aussi une amende pour les professeurs qui sortent en retard des écoles. Parce que moi, mes enfants vont au sport. Quand j'attends dehors, je suis sous la pluie des fois. Et puis des fois, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Et si je suis en retard chez le médecin, je suis pénalisé aussi. Donc ouais. L'État aujourd'hui, moi personnellement, il me devrait 3 000-4 000 euros en fait.
Bah, vous pouvez toujours réclamer, ouais. Mais bon, pas sûr que ça passe.
Et après, par exemple, moi j'habite à Vernon dans l'Eure. Il y a le train Rouen-Paris, que beaucoup de gens connaissent,
ouais.
Qui est toujours en retard. Pas toujours, beaucoup en retard. Et comment font ces parents-là? Ils demanderont les 30 euros à la SNCF?
Non, mais ils seront pas indemnisés.
Il y a 4 forces majeures, je pense que ça
sera pas la mort. Et puis là, on comprend l'état d'esprit qu'a d'ailleurs décrit tout à l'heure Thierry à Toulouse. C'est que la mairie dit, non mais ces amendes-là, c'est pour les parents qui font ça tout le temps. Sans aucun motif, sans aucune explication,
oui, au début,
avec des involtures
qui sont injoignables.
Ça, c'est injoignable.
Un parent dira pourquoi lui et pas moi.
C'est vrai.
Ça finira pour tout le monde. Donc au final, ouais. En fait, à la fin, moi je suis ok si tu fais dans les deux sens. Les parents sont pas remplacés, on me donne 100 euros la journée. Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, alors là, je vais pas faire de philosophie ni de sociologie, mais Damien, qu'il y a une sorte de laisser aller dans notre société quand même, un laisser aller général?
Ah oui, général, et puis je peux même vous dire, c'est global, même dans l'éducation nationale. Les professeurs veulent même plus s'investir pour des kermesses ou des choses comme ça, parce que c'est leur temps personnel. Aujourd'hui, c'est juste 8h, 16h20. Ah, les parents sont en retard.
Pas tous les profs, pas tous les profs.
Une grosse majorité, en 10 ans d'expérience, je peux vous dire, c'est 8 sur 10.
Voilà, et ça continue de vous choquer. Non mais je vous pose la question. Je vous pose la question, Damien, parce que moi je prends régulièrement le train aussi, et... aujourd'hui, donc je le prends tous les jours, je fais un aller-retour par jour. Aujourd'hui, quand un train a 5-10 minutes de retard, il y a même plus. Enfin, c'est pas systématique, mais régulièrement, il y a même plus de prise de parole de la part du chef de bord. Le chef de bord dit on arrive, on gare, merci. Et il y a même pas, on signale même pas qu'il y a un retard. Il y a même pas d'excuses. Non, il y a pas d'excuses. Et moi, ça continue de me choquer. Enfin, ça me choque.
Ah, mais t'as raison.
Au Japon, quand il y a un retard de plus de 30 secondes, il y a une enquête.
C'est normal. Enfin, bon, voilà. Moi, je pensais pour la désinvolture, mais. Merci Damien.
Du manque d'éducation ou du manque de respect.
Je sais pas.
Moi, je voulais quand même dire un mot sur les profs parce que là, ça a tapé dessus et je connais beaucoup de profs qui sont tellement engagés dans leur métier. Parce qu'on manque de profs et on ça me fait payer. Un peu de mal qu'on tape sur cette profession où c'est parmi les moins bien payés dans les pays OCDE. Dans des conditions où on leur fait changer de programme tout le temps avec des réformes qui n'ont pas de sens, où ils ne sont pas écoutés. Donc voilà, petit message pour les profs. Il y a plein de gens qui respectent énormément votre travail et bravo.
Damien, donc, était avec nous. Il nous appelait depuis le département de l'Eure. Sylvain nous rejoint. On est en Charente. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
On est dans quel coin de la Charente?
À côté d'Angoulême, Soyou.
Très bien. Sylvain, vous faites quoi dans la vie?
Je suis agent SNCF, donc.
Très bien. Très bien. Bah, tiens, je parlais de vous à l'instant. Mais j'ai dit que c'était pas systématique. Mais ça arrivait régulièrement, en tout cas. Moi, je le constate.
Et, oui, c'est vrai.
Merci, Sylvain. Et vous êtes père de famille?
Oui, mes enfants sont grands maintenant, je les ai plus à la maison, mais moi je l'ai vécu en tant qu'éducateur quand j'étais éducateur dans un club de foot.
Ah, alors racontez-nous votre expérience.
On avait certains parents systématiquement qui étaient en retard, et moi quand je leur disais que j'avais aussi une vie derrière, ou un travail, parce que je pouvais embaucher derrière, ils s'en fichaient quoi en fait. Donc moi je suis
ils
pas
vous
forcément...
disaient quoi, ils vous répondaient quoi?
Ah ben que c'est pas leur faute, ils ont pas eu le temps.
Vous avez qu'à faire autre chose? Voilà. Si ça vous plaît pas, faites autre chose, c'est ça?
Ouais, enfin, j'étais bénévole en même temps. Donc,
ouais, mais ils auraient pu vous répliquer ça, notamment.
Alors moi, ce que je reproche, c'est pas vraiment le retard que je reproche. C'est qu'on ne soit pas prévenu forcément. Parce que à la limite, si un petit coup de fil, tout le monde a un portable, hein, un petit coup de fil, et puis bon, écoutez, je suis en retard, excusez-moi, je suis dans les bouchons, je suis voilà, et il y a pas de souci, quoi. C'est la correction.
Je vais vous poser une question, Sylvain. Est-ce que c'était toujours les mêmes parents?
C'était souvent les mêmes parents.
Ouais.
Et oui.
Ouais.
Et pas forcément des gens qui travaillent.
Oui.
Et oui, parce que ceux qui travaillent font en sorte, justement, faisaient en sorte d'être à l'heure ou alors prévenir s'ils étaient en retard. Moi, c'est tout ce que je demandais, c'est qu'on me prévienne, je serai en retard. Parce que des fois, le retard, c'était trois quarts d'heure, une heure. Hein. Donc,
ouais, c'est énorme. Voilà. C'est énorme.
Et est-ce que vous aviez pensé à l'époque d'expulser les gamins foot?
Tu peux pas punir les enfants.
Non, je peux pas, parce que les gamins c'était des 12-13 ans, bon, ils sont pour rien, en fait. Hein. Une fois, j'ai menacé un père de déposer le fils à la police. Parce que
carrément.
Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, moi, je peux pas rester toute la nuit avec le gamin. Donc,
Et il vous a répondu quoi?
Pas grand chose, mais il avait beaucoup moins de retard à la suite. Donc,
ouais, voilà. Merci pour votre témoignage, Sylvain. Sylvain qui nous appelait depuis le département de la Charente. Olivier est avec nous. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
On est en Seine-Maritime.
Bonjour.
Oui, moi j'appelais parce que j'étais animateur périscolaire, tout ce qui est
très bien.
Soir, etc. Quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans à peu près.
Okay.
Et c'est ce que je disais à votre collègue au standard, c'était souvent les mêmes parents qui étaient en retard. Il s'excusait à peine et une amende, ça aurait pas fait de mal. Mais nous, on était payés jusqu'à 18h, donc pas plus. Et on nous disait, c'est à votre bon vouloir, vous avez qu'à laisser l'enfant là et tout, mais bon voilà, quoi, on est consciencieux dans notre travail, quoi.
Mais moi, je pense que c'est exactement ce type de personnes que vise cette amende, hein, Thierry, dont tu le disais tout à l'heure. Oui. C'est ce type de personnage.
Et est-ce que ça permettra de payer les heures sup des animateurs? Parce que là, du coup, moi, ça m'inquiète s'ils sont pas payés alors qu'ils doivent rester.
Si, c'est prévu. Les 30 euros correspondent à l'heure, c'est ça?
Oui, ça correspond. Ça veut pas dire
au salaire des deux animateurs. Est-ce que ça sera réaffecté pour
ça.
Autant?
C'est pas sûr que ça soit réaffecté.
Quand tu fais des heures sup, je pense qu'ils doivent être payés.
Bah non, là, il vient de dire que non.
Déjà, ça, on peut en parler, mais tout ce qui est contrat animateur, vacataire, les vacations, etc., c'est vraiment de l'exploitation. C'est un très beau métier. Moi, j'ai arrêté ça à cause de ça. Hein. Franchement, donc ça, c'est un autre problème, mais bon, ça rejoint indirectement.
Merci Olivier de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous sur RMC, RMC Story. On vous a posé la question, une amende de 30 euros pour les parents qui viendraient chercher leurs enfants en retard à l'école. Bonne ou mauvaise idée?
C'est assez partagé, mais nos auditeurs, nos téléspectateurs trouvent que c'est une bonne idée pour 55% d'entre eux.
Bon, dans un instant, on n'arrête pas le progrès. Ah non, avant ça.
C'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024. Votre voyage à Berlin, la rencontre avec les équipes de RMC et bien sûr, vos deux places pour la finale de l'Euro. C'est
avec
dimanche à 21h avec la France. On l'espère, on croise les doigts. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès. Avec qui? Avec Anthony Morel, forcément. Quelles applis pour vivre les JO à fond ou alors pour les éviter? C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h, RMC et RMC Story. Anthony Morel nous a rejoint et il est en forme.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
En forme olympique.
Ah oui.
Anthony, salut.
Salut.
On est à moins de 2 semaines des JO. On entend l'hymne des JO. Et tu nous fais une petite compétition.
Une petite compétition, ouais, c'est
une
ça.
Une petite compétition d'appli, que ce soit pour ceux qui ont la chance d'assister aux JO ou pour ceux qui veulent les éviter à tout prix.
Oui, j'ai pensé à eux en premier.
Ah ouais, il y en a.
J'ai pensé effectivement à ceux qui habitent en région parisienne, qui vont peut-être être coincés ici cet été et avec un amas de spectateurs, de touristes et qui voudraient un petit peu échapper à tout ça. Et j'ai trouvé une application formidable, alors qui va être aussi utile pour les touristes, je vous rassure, qui va être aussi utile hors des JO. C'est une application qui s'appelle Affluence, avec un S à la fin, qui permet d'éviter la foule. C'est une application qui permet...
On peut pas la garder toute l'année.
Je te disais, pour les JO, c'est pratique, mais ça va être pratique en fait toute l'année, puisque la particularité de cette application, c'est qu'elle va mesurer en temps réel le niveau d'affluence dans les lieux publics. Et elle va te le donner de manière extrêmement précise. Donc que ce soit une piscine, un musée, ah, c'est bien, un centre commercial, un centre des impôts, ça peut être des bâtiments administratifs également. Alors en fait, cette application, ils ont tissé des partenariats avec des centaines d'établissements, ils ont installé des petits capteurs de présence à l'intérieur.
Carrément des capteurs,
c'est des capteurs.
C'est pas parce qu'on sait, la RATP le fait par exemple, quand tu as l'appli RATP, tu peux signaler s'il y a beaucoup de monde dans le métro, etc. Mais là, c'est vraiment des capteurs.
Là, c'est des capteurs, donc du coup, c'est beaucoup plus précis. Et donc, on va te dire à l'instant T combien il y a de personnes, et surtout on va te faire une prédiction, tu vois, en partant de l'analyse des données des années précédentes, de ce qui se passe en ce moment. On va te dire, dans une demi-heure il y aura tant de
ça
personnes
mieux. Dans à une la heure, piscine dans une heure c'est bon, il y aura moins de monde.
C'est ça qui est hyper intéressant, génial, parce que la piscine, génial, tu sais jamais combien il y aura de personnes, oui, de nageurs dans ta ligne. Pour les bâtiments administratifs, c'est la même chose. Ça fonctionne vraiment pas mal, et donc ça va être extrêmement intéressant.
Est-ce qu'on peut faire pour les audiences RMC aussi?
Pourquoi là il y aura moins de monde dans une demi-heure, là il y aura plus de monde, ça pourrait être intéressant. Mais je suis pas sûr qu'ils aient les capteurs pour, c'est un peu le problème. Ouais. Mais en tout cas, l'appli fonctionne bien. Je vous invite à la télécharger. Encore une fois, pour les JO, c'est pratique, mais c'est pratique dans plein d'autres circonstances. Plage. La plage, éventuellement. Alors, il n'y a pas encore les capteurs partout. C'est un peu la limite. C'est pour l'instant, ils sont limités aux partenariats qu'ils ont tissés avec les différents établissements. Mais c'est en train de monter en puissance, on va le dire. Donc, je redonne le nom. C'est Affluence, hein, comme l'affluence, mais avec un S à la fin.
Et pour ceux qui ont des billets, qui ont la chance, les heureux propriétaires de billets pour les JO, là aussi il y a des applications.
Oui, alors il y a deux, en plus de l'application officielle des Jeux Olympiques, tu as deux applications vraiment qu'il faut télécharger. La première, c'est Paris 2024 Ticket. Ça, c'est l'application déjà pour activer ces billets, mais aussi pour les remettre sur le marché. On le sait pas forcément, mais on peut les revendre via l'application. Alors, je précise, sans faire de bénéfice. On peut pas faire de spéculation. D'accord. Mais ça peut être intéressant si tu peux pas, pour une raison X ou Y, qu'il y a un empêchement. Ou alors, si t'as acheté, tu sais, tu peux acheter des packs aussi avec plein de billets pour plein de trucs.
T'intéresses moins.
Et des fois, il y a des sports qui t'intéressent un peu moins. Donc, tu peux les remettre sur le marché et puis échanger avec des trucs qui t'intéressent plus. Une autre appli à télécharger absolument, c'est Transport Public Paris 2024. Alors, qui permet d'acheter les titres de transport, ça c'est une chose. Mais qui permet surtout d'enregistrer à l'avance les épreuves auxquelles tu vas participer. Et là encore, en fonction du niveau de fréquentation, on va optimiser tes déplacements. On va te dire, voilà, si tu pars à tel moment en prenant telle ligne, là, il n'y a pas trop de monde sur le quai, tu devrais t'en sortir. Enfin, c'est mieux, on va dire, ça va être plus optimisé que si tu utilises Google Maps ou les outils traditionnels.
Et puis, un autre enjeu pour Paris, durant les JO, mais même en dehors des JO et pour les grandes villes, c'est l'accessibilité pour les personnes handicapées.
Ouais, absolument. Bah, d'autant qu'on s'apprête quand même à accueillir les Jeux Paralympiques. Ouais. Et c'est pas franchement, enfin, Paris n'est pas exemplaire de ce point de vue-là.
Le métro,
on est d'accord.
C'est pas possible, en fait.
Tout à fait.
Je veux dire, c'est une honte qu'une grande capitale comme Paris n'ait pas des ascenseurs.
On va accueillir les Jeux Paralympiques.
Absolument, et c'est vrai aussi pour plein de lieux publics, c'est vrai aussi parce que tu as des travaux, des trottoirs encombrés. Et alors là, il y a un truc qui est génial, c'est une application française, c'est que des applis françaises que je vous ai présentées aujourd'hui, qui s'appelle StreetNav. C'est une application de guidage, on pourrait appeler ça le Waze du handicap. En gros, le principe, c'est que tu vas sélectionner alors le type de handicap, ça peut être fauteuil, ça peut être malvoyant. Alors tu as aussi l'option poussette, qui n'est pas encore un handicap, mais c'est parfois compliqué aussi de se déplacer avec une poussette. Oui, et en fonction de ça, tu choisis l'endroit où tu veux aller, un peu comme sur Google Maps ou sur Waze, et on va t'optimiser ton trajet en fonction des obstacles que tu risques de rencontrer. Et ce qui est formidable, c'est que comme sur Waze, l'application est mise à jour en temps réel par les utilisateurs eux-mêmes. Donc on va dire, voilà, dans cette rue-là, ah, attention, là, il y a des nouveaux travaux qui viennent d'arriver. Ouais. Là, t'as une voiture mal garée. Là, le trottoir est un peu haut. Et donc, en fonction de tout ça, ça va optimiser le trajet. Il y a plus de 50 000 personnes qui utilisent cette application-là. Et normalement, alors, ils ont un partenariat avec l'IGE de Paris. Normalement, 80% des rues de Paris devraient être couvertes d'ici le début des JO. Donc voilà, c'est une petite appli aussi qu'on peut télécharger, StreetNav.
Merci beaucoup. Anthony, tu es avec nous demain.
Oui.
Tu sais de quoi on parlera?
Oui, demain, on va parler d'un dispositif qui est testé par un certain nombre de buralistes, notamment pour détecter l'âge de leurs clients. Est-ce qu'ils sont mineurs ou pas mineurs? Et pour ça, on va utiliser de la reconnaissance, de l'analyse du visage. On sait déterminer si t'es mineur ou pas mineur à partir
Big
de
Brother,
ça.
Quoi.
Ah non, alors c'est toute la subtilité. C'est pas de la reconnaissance faciale, c'est juste on sait te dire si t'es mineur ou si t'es pas mineur. Voilà. Mais on n'analyse pas qui tu es.
Je trouve ça un peu flippant, mais on verra demain.
On verra demain.
On mettra à l'entrée des boîtes de nuit aussi.
Aussi.
Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. 40% des Français ne partiront pas cet été. Faut-il créer un droit aux vacances? Certains le réclament. Eh bien, vous nous appelez au 3216 pour nous donner votre avis. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 14h.
Estelle Midi.